bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Atari, l'émission de débat de Criticat. On se retrouve aujourd'hui avec Josué Morel.
Bonjour Clément.
Pour parler de Ferrari, le nouveau film de Michael Mann qui sort sur Amazon Prime, quelques mois après le reste du monde en salle, et qui est le premier film de Mann en près de 9 ans, puisque son dernier film c'était Hacker en 2015. Ferrari semble une figure un petit peu taillée pour Mann, qui a toujours eu parmi ses thèmes récurrents, on va dire, la question de la vitesse et un petit peu l'entrecroisement de la vie privée et de la vie professionnelle, qui se joue aussi dans ce film-ci, puisqu'on va suivre donc Enzo Ferrari pendant à peu près 3 mois de 1957, où à la fois l'entreprise Ferrari risque la faillite. Lui doit préparer la course des Mille Miglia, qui est une course historique qui a connu sa dernière édition en 57, et dans sa vie privée, et bien tout simplement, en fait, Enzo Ferrari vit une sorte de double vie, avec d'un côté sa femme qui s'occupe aussi de l'entreprise, et de l'autre une femme qui s'appelle Lina Lardi, avec qui il a un enfant caché. Est-ce que Ferrari t'a semblé un film particulièrement manien, ou en tout cas dans la lignée de Hacker, parce qu'effectivement il y a un changement d'époque et presque de, voilà, quelque chose qui tranche quand même avec sa lignée de ses derniers films?
Alors c'est compliqué parce qu'il y a deux choses qui s'entrecroisent. Il y a à la fois l'évolution de Mann et il y a l'évolution de mon rapport que j'ai avec Mann. C'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, j'étais très 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 manien, très impressionné par Hacker. Et j'aime toujours Mann, mais c'est vrai que j'avais revu pas mal de films au moment de faire la recension du livre Somme un peu de Jean-Baptiste Auré. Et il y avait des films qui m'avaient paru un peu moins forts. Enfin, je sentais non pas un désamour, mais quelque chose un peu comme l'évolution de la relation entre Ferrari et sa femme. C'est-à-dire que c'est plus tout à fait comme les premiers temps. Et en même temps, il y a encore un petit feu ardent et il suffit que voilà, il y a une étincelle dans l'œil pour que ça redémarre. Et disons qu'aussi, c'est un film qu'on a longtemps rêvé. Le scénario est prêt depuis les années 90, mais en fait, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette rumeur comme quoi le film qu'il voulait faire est devenu ensuite Le Mans 66, le
film de James Mangold. Tout à fait, il a été attaché à ce projet-là.
Puisqu'il devait, à un moment, faire le film avec Christian Bale. On a parlé de Niro à une époque. Il y avait aussi, Hugh Jackman. Voilà. Et donc, on peut se poser la question, et d'ailleurs, qui est une question qu'on se posait l'émission précédente qu'on avait faite sur La Bête de Bonello, qui était aussi un projet de longue date, qui avait été interrompu suite à la mort d'un des interprètes prévus, qui était Gaspard Ulliel. Et cette question de comment, en fin de compte, on relance le désir d'un projet de longue date, et c'est une question que je me suis posée de manière omniprésente devant le film, c'est où est le désir de Mann, puisque ce film-là, notamment après Hacker, qui était le film qui avait des espèces de scènes d'accélération, notamment quand il filmait un virus s'infiltrait vraiment dans les réseaux, qu'il essayait de filmer à une échelle macro et micro l'interconnexion du monde mondialisé aujourd'hui, à la fois par le capitalisme mais aussi par le tout numérique, internet et compagnie. Et donc on s'était dit, Ferrari, incroyable, ça va être un film sur la vitesse. Or, bon, depuis, le film a été monté à la Mostra, où il a eu des très mauvais retours, ou des retours quand même assez mitigés. Je dois avouer que je n'en attendais plus grand chose, et puis le film me surprend quand même un peu. Le film me paraît un peu étonnant, et donc cette question de savoir où est le désir de Mann, je pense qu'il faut partir du début. Alors c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que il me semble que cette question de savoir où est le désir de Mann, le film y répond très nettement, mais vraiment très nettement, dans les 15 dernières minutes, et qu'il y a quelque chose qui se noue un petit peu. On se dit, ok, c'est pour ça qu'il a fait ce film-ci. Et en même temps, en y réfléchissant de manière un peu rétrospective, c'est là dès le départ. C'est-à-dire, le film sur quoi ? Sur des images d'archives où est incrusté numériquement le visage.
Bon gré mal gré.
Voilà, alors c'est pas si c'est de la reconstitution ou c'est de l'incrustation, parce que je n'ai pas vu les images d'archives d'origine, mais en tout cas, on a l'idée de. On voit un Enzo Ferrari jeune, et d'emblée, ces images sont avant-génériques, ce sont des images du passé, et que cette question de Ferrari, le pilote de course légendaire, etc., elle est évacuée comme ça en quelques plans, avec une musique entraînante, certes. Et puis ensuite, on a autre chose, on a une forme d'immobilité, quelque chose qui serait de forme de l'intemporel. Alors, cette idée notamment des plans de paysages intemporels de l'Italie qui se fondent les uns dans les autres et qui se fondent dans le corps de Ferrari et de sa compagne, donc qui n'est pas son épouse, mais qui est un peu sa deuxième femme, qui sont couchés, qui sont en train de dormir. Donc Ferrari apparaît déjà comme un corps endormi qui se réveille. Et là, il y a quelque chose de très intéressant sur la vitesse, c'est que tout ce qu'on nous montre, c'est Ferrari comme un personnage qui serait un peu à contre-courant, ou du moins qui aurait un peu une espèce de vitesse paradoxale, puisqu'il se réveille, il se met en marche alors que le reste de la maisonnée est en train de dormir, et qu'il doit rattraper à temps. Il doit arriver à temps pour rejoindre sa véritable épouse, qui est jouée par Penélope Cruz, qui l'attend, et qui est une espèce de personnage qui à la fois lui laisse un certain nombre de liberté, mais qui a certaines règles. Enfin bref, ils ont une espèce de mariage qui est plus un mariage maintenant de raison, qui est un mariage économique, c'est vraiment sa partenaire dans l'entreprise, et c'est plus du tout un mariage passionnel. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que d'emblée, on voit un petit peu quand même Ferrari conduire. Il y a la seule scène où on voit Ferrari conduire, et on le voit à bord d'une toute petite voiture.
Et ça produit déjà d'ailleurs une accélération du montage.
C'est ça, et on le voit jouer avec ses pédales, donc il y a encore un peu de métier qui est là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, bon, c'est peut-être un peu facile comme lecture, mais cet homme un peu vieilli, qui est dans une petite voiture et qui se retrouve à une espèce de vision assez réduite, en fin de compte, de ce qu'était son art et sa maîtrise, bah, c'est Mann lui-même. C'est-à-dire que Mann se retrouve à bord d'une petite voiture. C'est-à-dire que le film n'est pas une grande chose. C'est son film, et d'ailleurs, les scènes, entre guillemets, les plus impressionnantes et les scènes de course le montrent, sur des effets spéciaux qui sont un peu plus rudimentaires. Moi, ça ne me gêne pas. J'aime bien la proté des effets spéciaux qui ne visent pas une espèce de perfection ou une espèce de déluge, comme ça peut être le cas dans des blockbusters beaucoup plus produits, mais on voit bien que...
Il est un peu empêché. Ouais.
Non, mais surtout, il ne conduit pas une voiture de course. Il conduit un film, il conduit une voiturette. Il conduit une petite chose, et puis on ne voit pas du tout donc Ferrari au moment de sa gloire. On voit un Ferrari qui est plutôt dans l'ombre, qui est une figure spectrale. Cette question de la temporalité est intéressante, puisqu'il y a aussi d'emblée, le film commence par une menace, une ombre, c'est-à-dire que le record de Ferrari va tomber. Le record de l'écurie Ferrari qu'il détient à ce moment-là va tomber. Et on a le personnage de Ferrari avec ses acolytes qui sont à la messe et qui sont en train de minuter une course qui est en train de les battre. Et donc, il y a tout de suite ce décalage-là qui s'instaure. Et puis, cette idée d'un personnage à contre-courant, il y a aussi une assez belle scène, c'est que sa journée se met en route, il rencontre un pilote, mais le feu est au vert, et donc il ignore. Et puis même, il va voir son fils, et il est en avance sur sa femme. Donc c'est un personnage qui est soit toujours un peu en avance, soit qui essaie de courir un peu après le temps. Et cette question de la temporalité, et donc de la vitesse, est visiblement un problème pour le personnage. Et bon, ensuite, on va décrire un peu ce qui s'y passe, mais... Ce qui est étonnant, c'est que, je vais te passer ensuite la parole pour qu'on décortique un peu ce qui s'y joue, mais c'est un film à la fois que je trouve, il faut le dire, un peu décevant formellement, qui est beaucoup moins inspiré que d'autres films de Mann, qui est un film dont l'écriture est un peu flottante, même s'il y a des détails de mise en scène ici et là qui rappellent quand même que c'est un metteur en scène intéressant. Et en même temps, à l'arrivée, quand on regarde le film dans son ensemble, je trouve que c'est un film étonnamment cohérent et que même si son désir est peut-être un peu décevant, il me semble tenu et il suit quelque chose d'un peu logique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il fait un film complètement hanté, qui est absolument pas du côté de la vitesse, mais qui est au contraire d'un temps suspendu. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est que toutes les scènes un peu de vitesse qui sont intéressantes visent au fond une décélération. Et que l'acmé du film, le moment charnière du film, est d'ailleurs un ralenti. La grande scène du film, entre guillemets, le grand moment un petit peu spectaculaire, qui est une scène un peu étonnante parce qu'on n'attend vraiment pas, on la voit vraiment pas venir, est une scène de ralenti, qui est un ralenti meurtrier, etc. Donc, ce rapport à la vitesse, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, à la fois, n'est pas ce à quoi on s'attend, qui, objectivement, est un peu décevant, et, en même temps, qui nourrit un sillon qui est quand même un peu singulier et curieux, qui fait que ce film-là, à mon avis, s'inscrit très, très bien dans la filmographie de Mann, mais dans un versant qui est son versant mélancolique, tragique, etc.
Mais c'est vrai que, pour revenir un petit peu à la façon dont j'ai ressenti le film, et qui, je pense, est la source de beaucoup de déceptions aussi qu'on a pu lire. Alors moi, contrairement à toi, je tiens toujours Mann comme un des, si ce n'est le plus grand aujourd'hui, mais c'est vrai que ce film-là est un plus petit film par plein d'aspects. Et j'ai eu au début, en fait, l'impression, qui ensuite s'est un peu précisé, qu'il y avait finalement un peu deux films en un, c'est-à-dire ce film programmatique qu'on imagine sur la vitesse, et qui apparaît, on va dire, dans l'incipit presque du film avec cette séquence de flashback, et une sorte de, un peu de film en costume, un peu plus endimanché, un peu plus plan-plan. Et il y a d'ailleurs des séquences assez intéressantes sur la façon dont les deux dialoguent, quoi. Notamment cette séquence que tu as commencé à décrire de l'église, où en fait, puisque les tours de piste sont marquées par des coups de feu, même Ferrari qui est dans l'église peut, avec ses camarades, chronométrer la piste. Et donc là, par le montage, on va dire, la vitesse s'infiltre presque dans cette espèce de tableau un peu plus folklorique italien. Et il y a quelques séquences comme ça, notamment à un moment, un raccord que j'aime beaucoup, Ferrari est à l'opéra, et la séquence est brutalement interrompue par un gros plan de la gueule d'un bolide comme ça, rugissant. Donc on a l'impression qu'il y a un peu ces deux un peu forces contraires. D'un côté, une sorte de force de vitesse, et de l'autre, quelque chose davantage de l'ordre de la staticité, qui on va dire, se rencontrent, ou en tout cas un petit peu bataille. Et effectivement, même si ça tient à un élément de scénario qui est présenté dès le début, on comprend presque peu à peu, et ça s'incarne vraiment à la fin du film, un petit peu ce qui habite le film, et là où, comme tu l'as dit, est le désir de Mann, c'est un petit peu cette question du deuil, puisqu'en fait, on comprend au début du film que Enzo Ferrari et sa femme ont perdu leur enfant. Enzo lui-même a perdu son frère ainsi que tout un tas de camarades par le passé. Et finalement, comme tu l'as dit, c'est à mon sens un des premiers films où cette question un petit peu du poids du passé vraiment s'infiltre.
Ouais, alors pour moi, c'est au-delà du deuil. Pour moi, c'est la mort. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et le film le dit de manière assez nette, c'est-à-dire, c'est quoi Ferrari ? Alors, c'est pas seulement un conducteur, mais c'est un constructeur. Et en fond, il va substituer à la question de la physique, celle de la métaphysique, puisque, évidemment, la course, c'est une pulsion de mort. On est habité. Alors là, il y aurait la question du deuil, mais on est plus que la question du deuil, on est hanté par le souvenir d'amis qui sont morts il y a une vingtaine d'années, etc. Mais c'est surtout un film sur un pacte avec des morts, c'est-à-dire quelle est la première activité de quand il se lève, qu'il quitte cette maison, qu'il t'emmène une maison pleine de vie, parce qu'il y a quand même cette femme qui fait tout le temps à la cuisine, bon, dans des modèles très traditionnels italiens, et ce fils qui représente justement l'avenir, et le film s'arrête d'ailleurs sur ça, sur un carton qui nous annonce qu'en fait il reprend la maison Ferrari et qu'il poursuit le chemin. Mais ensuite, que fait Ferrari ? Il va chez sa femme, et c'est clairement un mausolée, et c'est une figure qui est entre la vie et la mort, et qui d'ailleurs, l'ultime vœu, son ultime phrase, c'est de garder secrète la paternité de ce fils non reconnu jusqu'à sa mort. Donc, qu'est-ce que fait à ce moment-là Ferrari ? Il fait un pacte avec une morte, une femme qui est déjà morte, et de tenir jusqu'à la mort de celle-ci pour pouvoir, lui, essayer de poursuivre sa vie. Et puis, c'est sa première activité, sinon, c'est d'aller au cimetière pour parler avec son fils, et puis ensuite de présenter son fils... De son fils mort à son fils vivant. Donc, en fait, le film se joue vraiment dans cet horizon-là, c'est-à-dire, la figure, il y a un peu cet horizon-là, c'est-à-dire la figure duel de Ferrari, et d'ailleurs qui est incarnée de manière étrange par un acteur quand même jeune, plein de vitalité, qui est Adam Driver, qui joue quand même quelqu'un qui est déjà un petit peu, alors à la soixantaine, donc il n'est pas aussi vieux que Mann, qui me semble à 75, 77, quelque chose comme ça, qui est un homme déjà plus âgé. Mais c'est quelqu'un qui est déjà se pose la question de son héritage, comment son entreprise va durer, qui est toujours dans cette idée aussi de rester, parce que la vitesse est une espèce de renouvellement permanent, c'est-à-dire que on repousse des limites, on repousse des records, et donc on a une figure qui à la fois est plein de vie, puisque c'est un personnage presque hédoniste, qui est un personnage qui est du côté de la vie, qui est un personnage qui est père, etc. Et puis un personnage qui doit traiter avec des morts, et une industrie qui est mortifère, et qui est pris un peu entre ces deux pôles, quoi. Mais je pense que plus que de la question du deuil, c'est vraiment ça, c'est-à-dire un personnage qui serait un peu hanté, qui serait un peu écartelé, et puis il y a un détail qui le dit très bien, c'est que il me semble, alors tu me diras peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est quand le personnage de Ferrari revient sur la scène de l'accident, qui est un peu la scène charnière, il me semble que c'est à cet endroit-là qu'on entend une musique qui était déjà un leitmotiv musical de The Insider.
La musique de Lisa Gerrard.
Voilà, donc qui était le personnage de Russell Crowe, qui était lui aussi un personnage coupé en deux, séparé, etc., qui était un personnage duel, qui était tiraillé entre deux forces. Et là, c'est aussi peut-être une figure de héros manien assez récurrente. Hein. D'une certaine manière, Ferrari, c'est le dernier des Mohicans. Non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Non, c'est-à-dire que le film, en fin de compte, est très cohérent avec l'horizon de la filmographie de Mann. Ce qui est un peu étonnant, c'est que ça mène vers une forme qui est relativement dévitalisée, même s'il y a des idées sur des visages coupés en deux, toujours ces gros plans qui sont un peu étonnants. Et c'est vrai que c'est aussi une mise en scène qui, quelque part, c'est la mise en scène la plus statique, ou du moins la plus cadré de Mann depuis Hit, d'une certaine manière, depuis la révolution un peu numérique que mettait en scène à la fois Collateral, mais il y avait déjà des prémices dans The Insider, et que là, quelque part, ça y est, c'est vraiment un retour à quelque chose qui est beaucoup plus cadré, qui est beaucoup plus, on pourrait dire, académique, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même, ça l'est un petit peu par endroits, mais il y a quand même une espèce de rigueur, il y a quand même des détails de mise en scène qui égrènent au fur et à mesure le film, mais c'est vrai qu'on est face à une forme qui serait quasiment dévitalisée, et qu'en fin de compte, le désir de Mann, il est dans un désir d'après, il est dans un désir de mort, il est dans quelque chose qui tient peut-être, même si c'est une facilité un peu critique, d'une forme d'autoportrait, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans cette pulsion de la vitesse. On est dans quelque chose qui serait de la décélération et de la mort et cette espèce de négociation avec ça, quoi.
Bah d'ailleurs, un des détails qui m'a frappé au revisionnage, c'est que finalement, le nom Ferrari, qui évidemment ouvre le film, qui apparaît à l'écran au début du film, avant de le voir sur l'entreprise et les locaux un petit peu célèbres où il accueille les journalistes, etc., on le voit surtout sur le caveau auquel il va parler à son fils dès le début du film. Donc il y a une sorte comme ça de lien, en tout cas dès le début, entre Ferrari et...
C'est un mausolée, quoi.
Et, ouais. Mais sur la question de la vitesse, moi je serais peut-être un peu Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal qui se joue. Tu parles de pulsion de mort et effectivement, tous les pilotes savent que c'est un risque qu'ils encourent. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal où ils peuvent croire encore à une sorte de presque de pulsion qui serait plus vitaliste, cette espèce de, d'envolée. Et d'ailleurs, il y a quelque chose presque de l'ordre de la résurrection, puisque donc on voit au début donc, le nouveau pilote qui... rentre dans, dans une Ferrari pour la première fois, faire ses premiers tours de piste, et les premières remarques que font tous les personnages, c'est « Ah, il conduit comme Varzi, il conduit comme Varzi », qui en fait est un pilote qui est décédé, je crois, une dizaine d'années avant, qui n'est pas vraiment, enfin, qui n'est pas un personnage du film, mais il y a cette idée comme ça, presque d'une malédiction qui se transmet, où l'idée que peut-être celui-ci va réussir à toucher le sommet, et est finalement interrompu.
Et je trouve d'ailleurs, les morts sont vraiment filmés comme des envolées, quoi. Il y a quelque chose de, même de presque comique là-dessus, parce que c'est des scènes numériquement un petit peu approximatives. Il y a aussi un crash qu'on voit très nettement à un pantin. Alors qu'une voiture est en train de dévaler une colline, bon, ça c'est pas très grave, mais ça dit aussi quelque chose de c'est vrai que ce sont des scènes où on voit vraiment là où on, quelque chose qui serait presque de fantasmagorique. Puis d'ailleurs, bon, ça c'est des effets un peu de scénario classique, mais peut-être que les pilotes sont dans cet horizon là, mais Ferrari ne l'est plus, c'est à dire que par exemple, ce pilote, ce fameux ce jeune pilote qui a un peu une tête brûlée, que, enfin, à moitié, qui est amoureux d'une actrice célèbre, qui fait pétiller les yeux de son fils caché, etc. Il lui dit, la dernière phrase qu'il lui dit vraiment, ou une des dernières phrases qu'il lui dit, un conseil avant de partir à la course, c'est « rentre en un seul morceau ». Or, précisément, bon, voilà ce qui se passe durant l'accident. Non, mais c'est-à-dire, c'est le côté un peu, bon, c'est appuyé par le scénario, le côté de Ferrari qui serait une espèce devenue d'ogre, une figure tournée vers la mort et qui dont le commerce, en tout cas, se nourrirait d'espèces de chair fraîche, de corps qui seraient remplacés les uns après les autres.
Ce que les journalistes lui disent, il y a des comparaisons, Saturne qui mange ses enfants,
Saturne qui dévore ses enfants, voilà. Mais c'est par exemple, c'est intéressant, c'est que l'horizon de la course est quand même un petit peu l'acmé narrative. En fin de compte, c'est un truc bazardé. Et qui remporte la course, d'ailleurs, c'est le plus vieux. C'est Patrick Dempsey avec ses cheveux blancs. La finalité, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire cette espèce de voile mortuaire qui va absolument tout recouvrir. Et là, bon, sur ce versant final, sur la négociation qui se joue avec son épouse, je pense que se joue un peu le cœur du film, quoi. C'est-à-dire ce film un peu hanté, un peu décevant, il faut quand même le dire, hein, on y revient, mais qui serait là, cette espèce de désir un peu contrarié de Mann. Moi, avant, ce qui pose une question, c'est pour, déjà, c'est un cinéaste qui est quand même en semi-activité depuis l'échec un peu retentissant de Hacker, qui est un film qui n'est pas très aimé, par ailleurs, que nous on aime bien, mais qui a quand même été très mal reçu. C'est où est maintenant le désir de Mann et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? J'ai envie de dire quand même que ce film ne donne pas des très bonnes nouvelles, parce que si c'est un film qui jarrit depuis longtemps et qu'on finit par se retrouver avec cette petite voiturette, pour reprendre ma métaphore, même si c'est un peu acerbe, un peu cruel, et que le film vaut un peu mieux que ça. Tu vois, c'est-à-dire, moi je me pose dans ton point de vue, qui serait Mann, serait peut-être le cinéaste contemporain par excellence. Bon, au contraire, là j'ai l'impression quand même qu'il n'envoie pas des très bons signes de vie et des très bonnes nouvelles pour le futur, si tant est qu'il y ait d'autres films de Mann. Moi j'ai l'impression que ça ressemble aussi à un peu à un dernier film de loin. Je me trompe peut-être, mais bon.
D'ailleurs, il y a quelque chose d'un petit peu. Presque à l'échelle méta-filming, c'est que le scénariste du film est décédé avant que le film ait lieu. Et donc finalement, c'est à la fois le film que Mann a rêvé depuis des années et aussi un film qui est déjà testamentaire d'une certaine façon. Et peut-être pour peut-être reboucler et quand même mentionner un petit peu la façon dont ces séquences de course se jouent, qui sont quand même parmi les plus réussies du film, enfin, en tout cas moi qui m'enthousiasme quand même beaucoup. Là, effectivement, on retrouve un petit peu, enfin ça rompt avec la staticité un petit peu du reste du film, et on retrouve cette espèce de légèreté, de caméra extrêmement libre qui arrive à se promener le long des carlingues, etc. Il y a quelques effets un petit peu d'accélération pour le coup qui moi je trouve sont très réussis, notamment un moment où on voit une voiture arriver du fond du plan jusqu'à la caméra, et au cut on passe en plan subjectif du pilote avec un effet de défilement accéléré peut-être très très impressionnant. Mais comme tu l'as dit, il y a toujours un peu cette idée de dire on défie un peu la mort pendant quelques secondes où voilà, il y a cette espèce de phénomène d'abstraction de la vitesse, mais en même temps c'est pour foncer dans une allée de cyprès un petit peu mortuaire, et on sait très bien ce qu'il y a au bout du chemin, quoi. Et par ailleurs, tu parlais peut-être du fait que Ferrari serait le dernier film de Mann. Alors, en théorie, dans les cartons, il y aurait une suite de Hit, puisque Mann a coécrit le livre Hit 2, donc on verra si ce projet voit le jour, encore avec Adam Driver en théorie. Et en tout cas, merci pour cette émission, Josué. On remercie Marin Gérard derrière la caméra, Étienne Cimetière-Cano et le Ciné 104 pour les moyens techniques. Et on se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode d'Atari.